Audiolib présente Nos vies sous le même ciel de Jojo Moyes, traduit de l'anglais par Elodie Coelho, lu par Anne Le Coutour. À Saskia, dont la compréhension de la nature humaine dépasse déjà celle que je n'atteindrai jamais. Chapitre 1. Lila. Lila a sur sa table de chevet une photo encadrée qu'elle n'a pas encore trouvé l'énergie, du moins l'envie, de ranger. Quatre visages sont pressés ensemble devant l'immense aquarium d'une attraction touristique à l'étranger, ou était-ce, ça lui échappe, avec derrière eux un banc d'énormes poissons irisés aux écailles rayées, les fixant d'un air absent. Violette retrousse son nez avec un doigt et tire sur ses paupières inférieures pour se donner l'air d'une statue grotesque. Célie, en marinière, fait aussi la grimace, mais du haut de ses 13 ans à l'époque, elle était un peu plus soucieuse de son apparence. Lila sourit en vain, comme dans l'espoir d'obtenir malgré tout un joli portrait familial. Et Dan, dont le sourire n'atteint pas le regard, affiche une expression énigmatique, sa main posée sur l'épaule de Violette. Cette dernière photo de famille est la première chose qu'elle voit en se levant le matin et la dernière quand elle se couche le soir. Ce cadre aurait plutôt sa place dans un endroit où il ne viendrait pas ternir toutes ses journées, c'est vrai. Mais pour une raison qui lui échappe, elle n'arrive pas à le reléguer dans un tiroir. Parfois, quand elle ne trouve pas le sommeil, elle contemple la façon dont les raies de lune s'étirent sur le plafond de sa chambre, jette un coup d'œil à la photo et songe avec mélancolie à cette famille qu'elle aurait pu avoir, à toutes les photos de vacances qui n'existeront jamais, week-end pluvieux en Cornouailles et plages exotiques où ils seraient tous vêtus de blanc, aux remises de diplômes tout sourire devant une façade de briques rouges universitaire, au mariage de Célie, peut-être, ses parents fiers à ses côtés. Autant d'images voilées, éphémères, d'une vie qui s'est évaporée juste sous son nez. Parfois, elle a envie de prendre une boule de pâte à fixe et de l'écraser sur la face de Dan. Lila tente de décoincer un bouchon particulièrement tenace dans les toilettes du premier étage quand elle reçoit l'appel d'Anouchka. Quand elle a acheté cette maison avec Dan 2 ans et demi plus tôt, grande bâtisse des quartiers verdoyants du nord de Londres, à rénover et qualifiée d'atypique par l'agence, nom de code pour les biens invendables, elle a été séduite par le mobilier d'époque des salles de bain, dont les tons vermante et framboise, associés au papier peint fleuri, installaient une coquette atmosphère rustique. Ils se sont arrêtés tous les deux dans chaque pièce pour évoquer ce qu'ils y projetaient. Mais quand elle y repense aujourd'hui, c'était plutôt elle qui arpentait la maison avec ses projections, tandis que Dan opinait avec des évasifs en regardant son téléphone. Dès le lendemain de la remise des clés, la plomberie pittoresque a décidé de révéler sa véritable nature par une série de bouchons et autres débordements intempestifs. Dans la salle de bain rose, celle des filles, une ventouse et un cintre tordu sont installés à demeure à côté du réservoir, accessible à Lila, puisque c'est à elle de s'y coller, visiblement, pour qu'elle s'attaque à chaque nouvel obstacle bien décidé à venir se caler solidement au fond de la cuvette. « Lila, ma chérie, comment vas-tu » La voix d'Anouchka est soudain étouffée, et Lila entend en arrière-plan « Non, Gracie, n'y mettez pas d'œil, quelle fleur vulgaire !»« Ah non, certainement pas de gerbera, elle déteste ça !» Lila se penche pour toucher avec son nez le bouton du haut-parleur sur son téléphone et réprime un haut le cœur quand une gerbe d'eau tombe sur son gant en caoutchouc. « Génial, tout va bien » répond-elle. « Et toi ?»